Il est 7h43, voici l'interview de Matin Première. Bertrand, vous recevez ce matin Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis. Messieurs, c'est à vous.
Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur de plusieurs livres concernant les États-Unis, l'Amérique dans la peau quand le président fait corps avec la nation, ou Kennedy, une vie en clair-obscur. On évoque avec vous les résultats de ce Super Tuesday. On vient de le dire, deux candidats qui se détachent. Hillary Clinton a remporté 7 États contre 4 pour Bernie Sanders. Et côté républicain, Trump en récolte 7 également, 2 pour Ted Cruz et 1 pour Marco Rubio. Les deux favoris se détachent, Thomas Negaroff. Est-ce qu'ils sont sûrs maintenant de se retrouver l'un contre l'autre dans quelques semaines dans la course à la présidence ?
Alors rien n'est jamais sûr parce qu'il reste quelques gros États au mois de mars. On a la Floride qui se profile, l'Ohio avec le Michigan un peu avant. Mais c'est clair qu'on a un paysage aujourd'hui électoral américain beaucoup plus clarifié. On peut pas être sûr, jamais être certain, mais c'est vrai que l'affiche commence à se dégager. Le duel, à moins qu'il y ait un troisième invité, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ça aux États-Unis. Mais en tout cas, le duel Trump-Clinton, qu'on n'imaginait absolument pas. Clinton est à la place à laquelle on l'attendait. Trump, évidemment, c'est la grande surprise. Mais oui, on y voit beaucoup mieux, beaucoup plus clair ce matin.
Ouais, il y a encore dans chaque camp, finalement, deux duels qui vont se jouer entre Hillary Clinton et Bernie Sanders et entre Donald Trump et Ted Cruz. C'est ça qui va se passer.
Oui, et d'ailleurs, c'est étonnant à quel point Marco Rubio a explosé en vol lors de Super Tuesday. C'est quand même l'une des principales, à mon avis, informations de cette nuit. C'est celui qu'on imaginait comme étant en embuscade, souvent troisième, souvent deuxième, qui pouvait être le candidat de l'establishment face à Donald Trump. Et ben, il a pris une énorme raclée cette nuit. Il aura du mal à s'en relever. Et s'il perd son état, la Floride, le 15 mars, c'est vraiment fini pour lui. Mais alors ce duel Trump-Cruz, c'est vraiment pas le duel qu'on attendait. C'est un duel qui est un pire cauchemar pour les républicains. Cruz étant considéré comme trop conservateur, donneur de leçons, c'est quand même lui qui est responsable notamment du blocage budgétaire aux États-Unis. C'est aussi ça que les Américains ne veulent plus, c'est cette Amérique qui n'avance pas parce qu'on n'arrive pas à travailler les uns avec les autres. Et puis Trump, c'est aussi une forme de cauchemar pour le parti républicain parce que celui qui pourrait avoir la nomination, c'est celui qui tape le plus sur le parti républicain en permanence. Donc là, ils sont très mal et je lisais même sur Twitter des comptes très sérieux de journalistes américains qui considèrent que le parti républicain est peut-être mort ce matin. En tout cas, il est moribond. Je sais pas s'il est mort. Et puis du côté démocrate, duel oui, mais un duel quand même très très déséquilibré. Vraiment l'avance d'Hillary est très très forte. Les États qui arrivent, l'Ohio, la Floride, le Michigan, sont très favorables à Hillary Clinton. Il n'est pas certain qu'à la fin du mois de mars, on ait encore un duel.
Oui, beaucoup d'analystes américains placent Donald Trump et Bernie Sanders un peu dans le même sac. Ils disent ces deux candidats anti-système, un peu populistes, qui jouent sur le rejet par une certaine base électorale de la classe politique dominante. Vous faites la même analyse ou il faut être plus nuancé que ça ?
Alors moi, je suis pas du tout de ceux qui disent que c'est la même chose. Bien sûr, dire les extrêmes se rassemblent. Non, d'ailleurs, je pense pas que Bernie Sanders soit un extrême. Et Trump, par certains aspects, non plus d'ailleurs. À part la question xénophobe, bien sûr, sur d'autres questions, il est souvent considéré comme trop modéré par beaucoup de conservateurs américains. Donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. C'est un refus de la mondialisation, ça c'est très clair. Un rejet, une inquiétude par rapport au vaste monde qui entoure l'Amérique. Mais après, les solutions sont extrêmement différentes. Il y en a un qui veut mettre un mur et l'autre qui veut relever les salaires minimums. Donc on est quand même sur des approches très différentes. Mais c'est vrai que dans les deux cas, il y a un rejet du système politique américain qui est très fort aux États-Unis, un discours populiste qui l'emporte. Mais la grande différence, je crois aussi, c'est que quand on regarde Sanders, c'est quelqu'un qui refuse vraiment le jeu politique, qui refuse le jeu des petites phrases, qui refuse d'agresser, d'attaquer son adversaire politique, y compris sur les emails, et on pense bien sûr à Hillary Clinton.
Ouais, et on lui reproche d'ailleurs dans son camp, on lui reproche d'être trop doux.
Ben oui, alors il est sur les idées, c'est un idéologue, alors que Trump, lui, a vraiment fluctué dans sa vie politique, il a vraiment pas de colonne vertébrale idéologique, et il est que dans l'agitation. Donc il y a vraiment un candidat du fond, un candidat de la forme, et les relier, je trouve que c'est presque faire injure à la chose politique qui est davantage incarnée par Bernie Sanders.
Ouais, si on regarde le paysage politique américain après ce Super Tuesday, on se dit quand même que il est plus divisé que jamais. Alors c'est normal que les primaires, chaque camp campagne dans son camp et que ça tire un peu le parti républicain à droite, le parti démocrate à gauche. Ouais. Mais enfin, quand même ici, l'écart entre Donald Trump et Bernie Sanders, c'est plus grand comme écart que ce qu'il y a pu avoir dans le passé américain. Vous faites le même constat, l'Amérique est plus divisée que jamais ?
Oui, et c'est le grand paradoxe, puisque souvenez-vous que Barack Obama avait été élu en 2008 avec une promesse de bâtir des ponts entre les Américains, de travailler avec les Républicains, c'était le grand truc de l'époque. Et puis on voit que, en réalité, sa présidence a été tellement rejetée par une partie des Américains qu'on arrive à une société divisée, à une Amérique peut-être, je ne sais pas si c'est plus divisé que jamais, parce que dans les années 60, c'était aussi le cas, dans les années 50 aussi, mais, ou même au début des années 80. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une vraie guerre culturelle entre plusieurs Amériques, avec des lignes de clivage qui ne sont pas si évidentes, parce que, comme je le disais il y a un instant, on est moins sur conservateur et libéral que sur rejet de la mondialisation et acceptation de la mondialisation. Et en ça, ça rappelle un peu nos débats chez nous, hein. Chez vous en Belgique, chez nous en France. On est aujourd'hui sur une mondialisation qui brouille les identités, qui fait peur, qui inquiète, et avec des questions sécuritaires qui s'ajoutent là-dessus, mais aussi autour des questions des frontières. Et on voit qu'on a un redécoupage complet du paysage politique dans nos grandes démocraties occidentales, si on veut aller au-delà des États-Unis.
Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ça se fait, ce débat, au sein des deux grands partis historiques. Chez nous, pour trouver une telle différence de point de vue, il faudrait aller, peut-être, si on prend la France, entre Mélenchon et Marine Le Pen. Ici, ça se fait entre les Républicains et les démocrates. C'est peut-être aussi une forme de réussite de la démocratie américaine d'intégrer des courants si différents dans les grands partis.
Oui, et c'est d'ailleurs la vertu des primaires, hein. On fait la guerre à l'intérieur, mais théoriquement, à la fin, on se réunit derrière le candidat de son parti. Il va y avoir des primaires en France, je suis pas sûr qu'on arrive à la fin à une telle unité réelle ou de façade, en tout cas, peu importe, hein. On se souvient d'Hillary Clinton qui, après une guerre très féroce contre Barack Obama, avait appelé à voter Barack Obama, avait même travaillé avec lui. C'est vrai que c'est une sorte de vertu de la démocratie américaine, mais là, ça fonctionnera peut-être moins, parce que j'entends des sénateurs, notamment Ben Sasse, sénateur du Nebraska, qui est républicain, qui dit que même si c'était Trump, il ne voterait pas pour lui et appellerait à un troisième candidat plus conservateur, plus conforme aux idées du parti. Donc ce truc de « ça y est, le parti se réunit finalement après une grande guerre valeureuse et courageuse derrière son candidat », c'est pas évident que ça fonctionne, parce que c'est tellement particulier cette année avec Donald Trump que on sait pas vraiment où va le parti républicain.
Et c'est pour ça que vous nous disiez que peut-être le parti républicain allait exploser, ou en tout cas qu'il était moribond. Ouais. Beaucoup d'images circulent encore très récemment sur les meetings de Donald Trump avec des expulsions, le service d'ordre très très viril, voire violent. Une question simple, si Donald Trump était président, ce serait quoi comme président? Ce serait quoi comme Amérique pour vous, Thomas Negaroff?
C'est très difficile à dire. Ça serait, on a du mal à utiliser encore. Enfin, on utilise le conditionnel parce qu'on on a du mal à l'imaginer encore. Mais ce serait une Amérique qui verrait le monde un peu comme l'Amérique de Reagan voyait le monde, à savoir comme un espace inquiétant, une Amérique assiégée qui doit montrer du muscle. Hein. Vous parliez des images violentes. C'est aussi les propos violents de Donald Trump, hein, qui dit à propos d'un manifestant lors d'un de ses meetings qu'il aurait bien aimé le frapper dans le visage. On a effectivement un discours viril, un discours de violence qui réémerge après une période plus de dialogue sous Barack Obama. Vous avez eu la gentillesse de citer un de mes livres. Dans l'Amérique dans la peau, je montrais précisément que on veut que le président soit un miroir flatteur de l'Amérique, des Américains à un moment donné. Et il y a des moments, des périodes américaines, des périodes de l'histoire américaine où on veut un président qui soit plus dans des valeurs de dialogue, des valeurs de négociation, dresser des ponts. Et là, ça a été plutôt des présidences démocrates. Et puis il y a des moments comme ça de grande inquiétude où on a l'impression que le rêve américain disparaît, où on a l'impression que le monde entier profite de l'affaiblissement de l'Amérique pour écraser l'Amérique potentiellement. Et à ce moment-là, vous avez des tribuns, des Reagan, des Bush, des Trump qui arrivent, qui émergent avec un discours extrêmement décliniste, extrêmement anxiogène et qui offre comme réponse une réponse presque bodybuildée, testostéronée, une réponse assez virile aux enjeux du moment. On voit que ça bascule et ça c'est assez cyclique, hein, donc faut pas forcément se démoraliser avec un Trump. Ou alors on peut se démoraliser, mais c'est en tout cas quelque chose d'assez cyclique dans l'histoire américaine, notamment dans l'histoire récente américaine. C'est vraiment des sortes des piqûres comme ça d'inquiétude à des moments précis. Mais là encore, hein, dans nos débats aussi, on a ces questions-là de déclin, de décadence et de réponse, y compris par la force, y compris par la virilité à ces enjeux. Et je crois que l'Amérique de Trump, elle serait un peu dans cet état d'esprit-là.
Ouais, il nous reste moins d'une minute. Dernière question. Est-ce que Donald Trump, il va ou il peut changer? Est-ce que c'est de la posture ou est-ce qu'on est là sur maintenant un personnage politique qui va aller jusqu'au bout tel qu'il est comme ça? Ou est-ce que c'est finalement une part de cinéma? Comment vous le voyez?
Alors c'est difficile en moins d'une minute maintenant, mais le Parti républicain considère que, à la limite, au pire, Trump serait mieux que Cruz, parce que Cruz est un véritable idéologue, et ils pensent que Trump, ils peuvent le cadrer. Et d'ailleurs, on commence à voir, il a dit hier, cette nuit, qu'il voulait rassembler le parti. Il peut avoir un discours modéré, en fait, Trump, il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc il n'a pas une très grande colonne vertébrale, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui est à la fois une faiblesse, une inquiétude peut-être, d'un point de vue politique, mais c'est quelqu'un qui peut être éventuellement managé, qui peut, j'imagine, être un peu cadré par le parti, en tout cas, plus qu'un Ted Cruz, qui est, contrairement à ce qu'on l'imagine, vraiment beaucoup plus dangereux pour le parti, beaucoup plus idéologue, presque obtus et fermé qu'un Trump qui est finalement, au-delà de ça, quelqu'un qui n'a pas véritablement de grandes visions précises de ce qu'il veut faire pour l'Amérique.
On a un paysage électoral clarifié ce matin, paysage électoral américain, le duel Trump-Clinton, un duel qu'on n'attendait pas. Ce profil, déclaration de Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis, ce matin sur la première. Dans un instant, vous retrouvez le Café Serré.